Vous écoutez RFI, les 16h à Paris, 17h à Beyrouth. Le journal avec vous. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour, à demain Lucie Bouteloup. Bonjour à toutes et à tous. À la une, le retour progressif à la normale en Espagne et au Portugal. Le courant est rétabli complètement après la méga panne électrique. Les deux pays écartent la piste d'une cyberattaque. La victoire de Marc Carney au Canada après les législatives, le libéral a d'emblée affirmé. L'ancienne relation avec les États-Unis est terminée. Pas de réaction officielle pour l'heure à Washington. À suivre aussi dans ce journal, la libération de 4 députés de l'opposition à Hong Kong, condamnés pour subversion en novembre dernier. C'était lors d'un vaste procès de militants pro-démocratie. Ils avaient plaidé coupables. Et puis encore un tour du Paris Saint-Germain en Angleterre ce soir pour la demi-finale allée de la Ligue des champions de foot. Les Parisiens, cette fois, face aux Gunners d'Arsenal. Comment le réseau électrique a-t-il pu s'effondrer en quelques secondes seulement hier en Espagne et au Portugal, avec des conséquences, un effet domino jusqu'au Maroc et au Groenland? 24 heures après, les causes de la méga panne continuent à être analysées. Mais l'opérateur d'électricité à Madrid, comme le gouvernement portugais, ont déjà écarté la piste d'une cyberattaque. François Musso, le gouvernement espagnol, a annoncé une commission d'enquête.
Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, prend les choses très au sérieux. On sait à quel point tout le pays l'attend en ce qui concerne les causes. Donc, d'où le lancement de cette commission d'enquête pour faire toute la vérité sur cette coupure sans précédent en Espagne. Et effectivement, il a écarté l'hypothèse d'une cyberattaque, notamment en provenance de Russie. Il a reconnu même qu'il y avait une déficience au niveau technique. Sanchez a reconnu que les opérateurs du réseau électrique national n'ont pas su bien gérer la génération d'électricité ce lundi à 12h33 précisément et n'ont pu éviter, je cite, une oscillation brutale dans le flux d'énergie qui a entraîné la coupure générale du système. Un des responsables du réseau national a indiqué que la production excessive d'énergie renouvelable, éolienne et photovoltaïque, des sources d'énergie fluctuantes, serait la cause de l'accident, de quoi donner du grain à moudre à l'opposition de droite qui s'oppose à la fermeture des centrales nucléaires, confirmée en début d'année par les socialistes.
François Musso à Madrid. Dans le même temps, la justice espagnole a annoncé, elle, l'ouverture d'une enquête sur un éventuel sabotage informatique. Au Portugal, voisin, le Premier ministre vient de s'exprimer. Le Conseil des ministres a décidé, là aussi, de créer une commission d'enquête indépendante pour analyser l'impact de cette panne au Portugal. L'Union européenne indique, elle, qu'elle tirera les leçons de cette coupure électrique d'une ampleur inédite. L'UE qui a par ailleurs félicité Marc Carney, vainqueur des législatives au Canada. Le libéral, novice en politique, a réussi son pari après une campagne marquée par l'ombre de Donald Trump, qui a malmené son allié historique avec son offensive commerciale, avec ses menaces d'annexion. Et d'ailleurs, dans ses premiers mots, après l'annonce de sa victoire, Marc Carney a parlé d'une trahison américaine. L'ancienne relation avec les États-Unis est terminée, selon lui. Éloignement donc d'Ottawa avec Washington et potentiel rapprochement politique et économique avec l'Europe, Pierre Benazet.
Ursula von der Leyen se félicite de la victoire de Marc Carney, la présidente de la Commission européenne. Y voit un renforcement à venir du lien entre l'UE et le Canada. Elle y voit surtout la perspective de promouvoir le multilatéralisme et le commerce. Pour l'Union européenne, l'agressivité de Donald Trump à l'encontre du Canada a poussé le candidat qui est le plus favorable au lien avec l'Europe. Non seulement Marc Carney a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais il n'a pas caché à l'époque ses craintes liées au Brexit. Surtout, depuis qu'il a pris la succession de Justin Trudeau en mars, il a rompu avec la tradition des premiers ministres canadiens qui vont d'habitude à Washington pour leur premier voyage officiel. Non seulement il ne s'y est toujours pas rendu, mais il a préféré un déplacement à Paris et à Londres pour l'Union européenne, qui veut renforcer et multiplier ses partenariats économiques à travers le monde. C'est peut-être le retour en grâce de l'accord économique et commercial global avec le Canada, connu aussi avec l'acronyme anglais CETA. Il n'est appliqué que de manière partielle, puisqu'un tiers des pays de l'UE ne l'ont toujours pas ratifié. On n'en est pas encore, en revanche, ici, à envisager sérieusement l'idée émise outre-Atlantique d'une adhésion du Canada à l'Union européenne. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Parmi les réactions internationales après l'annonce de cette victoire de Marc Carney au Canada, le président français Emmanuel Macron écrit « Hâte d'œuvrer à tes côtés, de nous serrer les coudes ». pas de déclaration officielle, en tout cas pour le moment, à Washington. Réaction en revanche en Ukraine, réaction parmi d'autres. Le président Volodymyr Zelensky se dit convaincu que le partenariat Kiev-Ottawa va se renforcer en pleine effervescence diplomatique pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev. En tout cas sur le terrain, pas de répit. Les deux pays se sont mutuellement attaqués avec des drones la nuit dernière dans la région de Belgorod côté russe, dans celle de Dnipropetrovsk dans l'est côté ukrainien. Au moins 3 civils ont été tués. Réaction en revanche immédiate d'Israël après la publication du rapport annuel d'Amnesty International, l'ONG particulièrement insistante sur la situation à Gaza dans ce rapport publié aujourd'hui après plus d'un an et demi de guerre dans le territoire palestinien. Le monde assiste à un génocide en direct sur ses écrans, écrit la secrétaire générale de l'organisation. L'État hébreu a condamné des mensonges sans fondement. En Syrie, les autorités de la coalition islamiste au pouvoir promettent de poursuivre les hommes armés impliqués dans les violences qui ont éclaté à Jaramana, dans la banlieue de Damas, donc la capitale syrienne. Affrontement entre forces de sécurité et combattants druzes qui ont fait 9 morts selon le dernier bilan avancé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Hong Kong, la liberté retrouvée pour 4 anciens députés de l'opposition emprisonnés depuis 2021. Ils avaient été condamnés en novembre dernier à 4 ans et 2 mois de prison avec 41 autres militants dans un vaste procès des militants dits pro-démocratie Heike Schmidt.
C'est à l'aube, dans des limousines aux vitres teintées, qu'ils ont quitté leur prison dans la banlieue de Hong Kong. Claudia Mo, Kwok Kha-ki, Jeremy Tam et Gary Fan. En 2020, ses opposants avaient organisé une élection primaire officieuse dans le but de sélectionner des candidats communs au camp pro-démocratie en vue des législatives. Un scrutin qui avait attiré plus de 600 000 électeurs, mais qui a valu aux organisateurs d'être accusés de subversion en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations géantes de 2019. Une loi draconienne qui a réprimé les dernières libertés politiques des Hongkongais. Élus universitaires, syndicalistes ou bien étudiants, en tout 45 opposants avaient été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans pour avoir fomenté un complot visant à renverser le pouvoir en place lors du plus grand procès politique depuis le retour de l'ex-colonie britannique dans le giron de la Chine en 1997. Claudia Mo, Kwok Kha-ki, Jeremy Tam et Gary Fan sont les premiers à être libérés. Ils ont vu leur peine réduite pour avoir plaidé coupable.
La justice en France est sur réquisitoire contre François Fillon, l'ancien Premier ministre. 4 ans de prison avec sursis requis donc contre l'ancien chef du gouvernement dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon. La culpabilité de François Fillon était déjà acquise. La cour d'appel doit encore trancher sur la peine. En France, encore moins d'étrangers en situation irrégulière placés en rétention, mais plus longtemps. C'est ce qui ressort entre autres du rapport annuel publié aujourd'hui par les associations de défense des droits des étrangers, rapport sur l'année 2024. Et cela alors que le ministère de l'Intérieur souhaite allonger la durée maximale de rétention. Justine Girard est responsable nationale rétention à la CIMAD.
Il y a une légère baisse du nombre de personnes qui sont enfermées. Par contre, on observe que les personnes sont enfermées beaucoup plus longtemps qu'auparavant. La durée moyenne de rétention a d'ailleurs considérablement augmenté. Et il y a beaucoup de personnes qui sont placées sur des durées longues, parfois jusqu'à 90 jours, la durée maximale. Alors que la rétention, il faut le rappeler, initialement, c'est un enfermement administratif. Donc pour les personnes qui n'ont pas de droit au séjour en France, dans le but de les expulser, et cela doit intervenir à bref délai, puisque les expulsions ont principalement lieu les premiers jours de la rétention, de l'enfermement des personnes. Donc, enfermer plus longtemps ne signifie pas du tout expulser plus. C'est une volonté, encore une fois, de mettre à l'écart ces personnes plus longtemps en détournant la rétention administrative de sa finalité première.
Justine Girard de l'organisation, la CIMAD, organisation d'aide aux étrangers, des propos recueillis par Sylvie Cauvin. Kofi. Et puis la belle affiche pour la première demi-finale de la Ligue des Champions ce soir. Arsenal-PSG, Arsenal-Paris à partir de 19h, temps universel à Londres. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Pour l'heure, on vous retrouve Caroline Lachowski pour Autour de la question. Bonne émission.